Les informations de Mireille Bukassa.
Joseph Kabila au Kasaï occidental, accompagné d'une importante délégation des ministres et des médecins, le chef de l'État a visité le lieu de l'accident ferroviaire à Kakenge avant d'aller consoler les rescapés internés à l'hôpital de référence de cette localité. Le gouverneur du Nord Kivu évalue ses 100 jours à la tête de la province. C'était lors d'un point de presse. Lors des questions et réponses, Julien Paluku a eu droit à un tableau noir dressé par les participants. L'acquisition et la possession des terres en RDC est cause de plusieurs litiges et conflits. Le gouvernement veut mettre de l'ordre dans ce secteur. Le ministre Liliane Pandé a ouvert ce mercredi à Kinshasa les états généraux des affaires foncières. La société de transport public SUC est en danger. Pour la sauver, il s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa un atelier entre cette société et le gouvernement qui doit honorer plusieurs engagements en vue d'améliorer les conditions de survie de cette société de transport en commun à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Joseph Kabila est arrivé au site de l'accident ferroviaire de Kakenge à 170 km de Kananga depuis cet après-midi. Il est à la tête d'une importante délégation des ministres, des membres de son cabinet ainsi que des médecins. Après s'être recueilli au site de l'accident, le président s'est rendu à l'hôpital de référence de Kakenge pour consoler les rescapés de l'accident. Pierrot et la Meji nous en parlent.
C'est aux environs des 13 heures que Joseph Kabila a foulé le sol de Kananga. Un stop pour arranger les détails techniques. Aussitôt, le président s'est envolé d'abord sur le site de l'accident. Sur place, le chef de l'État a fait le tour du lieu de l'accident avant d'écouter les explications du commissaire des districts et du gouverneur de la province à bord de son hélicoptère. Une vingtaine de minutes plus tard, Joseph Kabila et sa suite sont partis à l'hôpital général de référence de Kakenye. À l'hôpital, les rescapés sont sur des lits métalliques, certains des lits sans matelas et d'autres sur des nattes. Plus grave, le président de la République arrive à Kakenge à un moment où une bonne partie de la nourriture convoyée par le gouvernement dans la localité n'est pas encore arrivée. Partout où il est passé, le président Kabila a eu le mot de consolation pour les uns et les autres. Le chef de l'État est attendu à Kananga en fin de journée. Difficile pour l'heure de dire si oui ou non il passera la nuit à Kananga. Le deuxième hélicoptère de la MONUC qui a transporté l'équipe d'accompagnement du président a ramené à son bord 12 blessés nécessiteux d'un traitement plus approfondi. De Kananga, Piro et la Meji, Radio Okapi.
À Bandunduville, ce sont les passagers des bateaux bloqués dans le cadre de l'opération de lutte contre la coupe illicite des voies qui se plaignent. Ils déplorent les conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de vivre depuis 2 semaines. Ne sachant plus récupérer leurs frais de transport auprès du transporteur, ils demandent au ministre provincial de l'Environnement qui bloque ces bateaux de leur trouver un autre moyen de transport. Basile Bakumbane s'est rendu sur le lieu.
Ils sont plus d'une centaine de passagers perchés sur deux grimes dans le barge. En majorité, de femmes portant de bébés, deux élèves qui vont en vacances et autres marchands qui vont vendre leurs produits à Kinshasa. Partis des Djouma depuis le 21 juillet dernier, ils se sont vus bloqués depuis 2 semaines au port de Bandunduville. Leur seul péché, c'est d'avoir embarqué sur un bateau transportant de marchandises jugées suspectes. Depuis lors, ils sont exposés à des intempéries et mènent une vie très précaire. Voilà pourquoi ils demandent au ministre de l'Environnement qui a fait bloquer ce bateau de leur trouver un autre moyen de continuer le voyage avec leurs biens. Contacté à ce propos, le ministre provincial de l'Environnement, Roger Pembekoko, dit ignorer la présence des passagers, étant donné que le bateau bloqué ne sont que des grumiers et non de bateaux passagers. Du côté du cabinet de gouverneur, on affirme avoir entrepris des démarches pour évacuer le passager le plus vulnérable. Symphorien Mapamba, conseiller chargé des questions sociales et familles du gouvernorat, précise que près de 200 d'entre eux ont voyagé déjà grâce aux efforts de l'autorité. Aux dernières nouvelles, un de deux bateaux pourrait lever l'ancre dans les heures qui suivent. Cela après s'être acquitté de frais de la province. De Bandunduville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Fin ce mercredi de l'instruction du dossier sur l'assassinat du journaliste Serge Maéché au tribunal militaire de garnison de Bukavu. Devant la barre, deux militaires de la garde républicaine, mais également l'intervention de la veuve de notre confrère. La prochaine audience prévue pour vendredi prochain sera consacrée à la plaidoirie. Jean Kassami suit pour nous ce procès.
L'audience de ce mercredi a consisté à l'audition de deux témoins, des militaires de la garde républicaine. Ils ont reconnu avoir brutalisé puis menotté Serge Maéché un mois avant son assassinat au poste d'entrée de sa résidence dans la soirée du 6 mai 2007. Les deux militaires ont ensuite ajouté qu'ils se sont réconciliés avec la victime 2 jours après la dispute sur demande de la hiérarchie. Mais la veuve de la victime a relevé que son mari avait été privé du passage par le même militaire quelques jours après malgré la demande de pardon. Ensuite, le conseil de la partie civile a présenté un document dans lequel ce Serge Maéché avait sollicité à son employeur la MONUC de lui assurer la sécurité. Quant au présumé vendeur de l'arme utilisé pour assassiner la victime, le ministère public a signalé qu'il n'est plus au centre de brassage de Louberizy. On ignore sa destination. L'audience prochaine du 10 août sera plus décisive. Le tribunal a annoncé que la cause sera prise en délibéré ce jour-là. De Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Un autre procès qui a débuté il y a quelques heures, c'est celui des présumés assassins du docteur Kambale Kisoni à Butembo, Nord Kivu. 9 personnes sont accusées de cet assassinat. Le tribunal a prononcé le jugement pour 3 Congolais, 4 Ougandais et 2 Kenyans, ainsi que pour les 6 militaires de la 2e brigade intégrée accusés de s'être servi de l'argent récupéré auprès des bandits lors de leur arrestation. Suivez le reportage de Étienne Windo.
Le tribunal militaire de la garnison de Beni Butembo a condamné ce mercredi 7 de 9 prévenus civils à la peine de mort et 2 à 20 ans de servitude pénale. Selon le juge président, le capitaine Jean-René Nzingi, ces prévenus se sont rendus coupables d'assassinat devant la main armée, de participation à une entreprise criminelle et de détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Tous les 9 prévenus sont sommés de payer $1,500,000 américains de dommages et intérêts à la famille de ce docteur Kambale Kisoni, plus de 61,135 francs congolais de frais d'essence. Pour les 6 militaires accusés de recel des biens volés, 4 d'entre eux sont condamnés à 5 ans de servitude pénale, suivi de la révocation de l'armée. Un militaire est condamné à 18 mois de prison ferme et un autre acquitté faute de preuves. Les militaires accusés de recel ont été condamnés en outre de restituer la somme de $300,000 américains récupérés auprès des bandits lors de leur arrestation. Étienne Mouindo, Butembo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, ce mercredi 8 août, le gouverneur de province est à son 100e jour à la tête du gouvernorat. Quel bilan en tirer? La population du Nord Kivu, qui reproche à Julien Paluku notamment l'impartialité, se dit impatiente de voir les choses changer. Le gouverneur de province qui a réuni la presse locale ce mercredi affirme, lui, que faire le bilan de ces 100 jours, c'est faire l'évaluation d'un parcours du programme quinquennal. Il appelle donc la population à la patience. Sylvestre Kilolo était à ce point de presse.
C'est devant une vingtaine de journalistes de la presse locale que le gouverneur et son homologue, accompagné de son gouvernement, a été mis en face des frustrations de la population, nomination des personnes appartenant à sa tribu, manquer de freiner la violence dans la ville en particulier et à travers la province en général, rigueur contre la fraude près de Goma, mais nécessaire à Kassindi dans les Grands Nord. Voilà autant de charges que l'opinion fait au gouverneur Julien Paluku. Les gouverneurs qui qualifient les bilans d'aujourd'hui d'une évaluation des parcours et non des présentations des résultats programmés pour 5 ans croient que le souci de faire mieux est toujours là. Les accès routiers ont commencé à être réhabilités, les descentes à travers la province ont été faites, différents chantiers ont été amorcés. Les chefs de l'exécutif relèvent cependant les contraintes qui limitent certaines actions. C'est par exemple la rétrocession des 4 au lieu de 20% pour réaliser tous les projets. Quant à la fraude, M. Julien Paluku dit que le Nord Kivu occupe la 4e position dans la contribution du budget fiscal national avec $3,500,000 par mois. Selon lui, dans une province à gestion difficile, une zone fortement militarisée, il est tôt d'atteindre les merveilles. À cela s'ajoute l'héritage des groupes armés étrangers qui opèrent à travers les territoires. C'est mal l'insécurité du gouvernorat du Nord Kivu. Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
En parlant des groupes armés qui opèrent dans le Nord Kivu, la MONUC condamne les menaces contre les populations civiles de Rutshuru par certains militaires de la brigade Bravo. Dans son point de presse hebdomadaire de ce mercredi, la mission onusienne a indiqué que les civils sont victimes de harcèlement, des tracasseries, vols et autres exactions. Ainsi, la MONUC en appelle à l'intervention urgente des autorités militaires pour mettre fin à cette pratique. On écoute Hélène Aouet du bureau du porte-parole de la MONUC qui revient sur cette préoccupation de la mission onusienne. Ces propos sont recueillis par Mimi Ngumba Mulongo.
La MONUC est extrêmement préoccupée par les menaces proférées par des éléments de la brigade mixée Bravo, qui est censée assurer la sécurité des populations dans cette zone, à l'encontre de nombreux civils, voire même des représentants des autorités visant à les empêcher d'avoir des interactions avec les composantes civiles et militaires de la MONUC. Certains éléments de la brigade Bravo n'hésitent pas à se poster devant les bases des casques bleus déployés sur ce territoire pour surveiller les interactions des populations, voire même de certaines autorités en place, et le personnel de la MONUC pour prévenir ces dernières. La MONUC lance un appel urgent à la hiérarchie des FRDC pour qu'elle mette immédiatement fin à ces pratiques inacceptables et qu'elle sanctionne les éléments coupables de ces tracasseries et menaces.
La brigade Bravo est l'une des brigades issues du mixage entre les éléments de la 8e région militaire, dont les militaires issus des rangs de Laurent Kunda. Le programme national de démobilisation a remis hier des vélos à 89 démobilisés. Ces ex-combattants qui sont à Kikwit ont terminé leur formation en élevage. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités politico-administratives, militaires et de la société civile. Fabien Kambinzi.
Au total, 650 démobilisés du premier groupe qui ont suivi une formation en élevage, menuiserie, maçonnerie, conduite auto, recevront leurs premiers bénéfices au fur et à mesure. Au niveau des ex-conadaires au Bandundu à Kikwit, appuyés par le Bureau international du travail, la cérémonie d'hier a permis à 89 éléments d'entre eux ayant choisi l'élevage et aujourd'hui qualifiés et capables de soigner les porcs, de bénéficier des vélos en attendant leur kit professionnel, le matériel promis pour leurs activités. Ces démobilisés sont ici des centres de formation des TESF, au Chado et Mao de Kikwit 3. Selon les responsables de l'unité d'exécution du programme national à Kikwit, cette remise des vélos aux démobilisés et prochainement des kits professionnels symbolise la transformation directe des démobilisés en opérateurs économiques pour leur propre prise en charge. Kikwit, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Le gouvernement veut mettre de l'ordre dans l'acquisition et la possession des terres. Il s'est ouvert ce mercredi au centre Nganda de Kinshasa, les États généraux des affaires foncières. Ces travaux vont aboutir aussi au lancement de l'opération de changement des titres documents de propriétaires, appelés généralement titres immobiliers et fonciers. 150 participants venus de toutes les provinces vont ainsi faire l'état des lieux de ce secteur à la base de plusieurs conflits dans notre société. Babel Pongo a assisté à l'ouverture de ces travaux. Suivez son reportage.
La vétusté des méthodes d'élaboration et de conservation des plans de cadastre ou plans découpant et délimitant les terrains, ainsi que l'inexistence des archives sont parmi les causes du déclin du secteur foncier dans notre pays. La ministre des Affaires foncières ajoute à cela l'insuffisance de la vulgarisation de nouvelles mesures sur les régimes fonciers et le manque d'éthique des agents de ce secteur. Ces derniers profitent souvent de l'ignorance de la population pour procéder aux ventes dans des surfaces où le lotissement est interdit. Ce dernier cas est à la base de nombreux conflits immobiliers et fonciers enregistrés dans les cours des tribunaux et des démolitions telles que nous l'avons vu maintes fois à Kinshasa. Ces états généraux vont donc passer en revue sur les différents problèmes qui se posent dans le secteur foncier à travers le pays et apporter des pistes de solutions. Le secrétaire général des affaires foncières donne ici l'une des solutions.
Toute personne qui détient une maison doit avoir un certificat d'enregistrement qui est le seul titre légal. Si jamais nous assainissons cette pratique, nous allons connaître la baisse des conflits, accroître les recettes et nous allons instaurer une nouvelle gouvernance en matière foncière.
Concrètement, comment se fera cette conversion des anciens titres fonciers? Bénédicte Tchèche, directeur de cabinet du ministre des Affaires foncières.
À partir de la semaine prochaine, nous allons inviter la population à convertir les livrets de logeurs et autres documents en titres et en cours légal. Nous aurons à l'occasion à pratiquer un rabais.
Ces assises mettront aussi un accent sur la responsabilité pénale des fonctionnaires dans la rédaction des actes et la consécration de droits et se pencheront aussi sur les moyens pour mettre en place un fonds de promotion foncière.
Améliorer les conditions de transport en commun à Kinshasa, un souci du gouvernement et de la Société de transport urbain du Congo, STUC. Pour y arriver, les représentants de ces deux parties vont établir un nouveau cahier de charges économiquement viable. C'est l'objectif de la table ronde ouverte ce mercredi à Kinshasa. La rencontre est organisée conjointement par plusieurs ministres, parmi lesquels celui du transport, du portefeuille, de l'économie et des finances. Pendant deux jours, des experts vont examiner des problèmes tels celui de la gratuité des militaires et policiers, le remboursement des frais bancaires et dépenses engagées ou l'aménagement des grands axes. Charles Moututa, président administrateur délégué, estime que le gouvernement doit honorer ses obligations envers la STUC afin d'atteindre l'objectif poursuivi. Ses propos sont recueillis par René Capita.
Si un État veut aider sa population, le soulager des problèmes des transports publics, il s'engage, il s'implique.
Qu'est-ce que l'État doit faire en pratique?
On doit procéder à un relèvement graduel des tarifs. Il doit payer toutes les factures que nous avons rendues pour les transports des militaires et des policiers pour l'exercice 2006, pour l'exercice 2007. Puisque le tarif est faible, au lieu de donner une subvention, on sait qu'il a des problèmes. Il peut nous accorder ce qu'on appelle un allègement fiscal sur les charges des produits pétroliers. Ça fera baisser nos charges et aussi les conditions, comme je vous l'ai dit, du crédit indien. Retrocéder à des conditions avantageuses pour permettre de se remettre à flot. Nous, on a notre effort à faire, c'est de pouvoir remplir convenablement notre mission vis-à-vis de la population, qui est notre clientèle, comme il faut, découvrir l'ensemble de la ville de Kinshasa avec un service de qualité. Mais le gouvernement devra aussi arranger les routes. Ça, c'est primordial.
Près de 20 quartiers de la ville de Kinshasa connaissent une rupture en fourniture d'eau potable depuis ce mercredi matin. C'est suite à une panne d'électricité survenue ce mercredi même à la sous-station SNEL Régie des Eaux Kingaboa. Cette panne touche principalement les communes de l'Est comme Massina, Njili et Kimbanseke, et du centre de Kinshasa comme Matete, Lemba, Limete et Mongafula. Dans un communiqué de presse, la Régie des Eaux affirme qu'une équipe de la SNEL est à pied d'œuvre pour le rétablissement de la situation.